Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
On va méditer un texte, une réflexion ce matin qui est, me semble-t-il, quelque chose d'important, et nous avons besoin de revenir aux enseignements de l'Écriture sainte. Nous allons parler du jeûne. Pas des jeûnes, mais du jeûne. Voilà. On y viendra à deux reprises, hein, parce que le sujet est vaste, hein, mais c'est bien que nous puissions avoir une idée de ce que cela signifie, non pas en raison de ce que peuvent décréter des institutions, des mouvements religieux, etc., etc., mais ce que nous enseigne réellement la parole de Dieu sur la question, ce que nous dit la Bible, sur le propos du jeûne. Alors, nous allons lire un texte dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, s'il vous plaît. Chapitre 4, et ce sera très bref. Verset 1er, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Voilà. Que le Seigneur nous conduise dans cette réflexion. Et je pense qu'il est important que nous abordions ce propos, parce que nous pouvons avoir de nombreuses pensées, de nombreuses idées sur la question, mais je pense que il est bien de savoir, de bien mesurer les choses comme Dieu nous le dit. J'appellerai cela le jeûne agréé de Dieu. Alors on va voir de quoi il en retourne. D'abord, je vais parler d'une manière générale. Hein, qu'est-ce que le jeûne? En général, pour les hommes. Je ne parle pas uniquement pour les chrétiens. Le jeûne résulte de l'abstention de prise de nourriture, on le sait, soit volontaire pour des raisons médicales, spirituelles, politiques, soit contrainte par suite de privation ou de sous-alimentation pour des raisons socio-économiques. Ça, c'est le dictionnaire qui le dit. Donc, nous avons une amplification de la question. Il n'est pas seulement uniquement dans le cadre religieux, mais il peut avoir aussi d'autres sens, d'autres pratiques ailleurs. Je vous dirais que les animaux jeûnent aussi d'une manière naturelle. L'hibernation, ou la période du rut, pour certains. Beaucoup de personnes jeûnent aussi d'une manière, pensent que cette pratique, quand elle est raisonnable, est bonne. Je dis bien quand elle est raisonnable, est bonne pour la santé. Donc, toujours d'une manière par-delà nos frontières à nous. Le jeûne est donc parfois pratiqué par mesure d'hygiène, tant physique que mentale. Dans toutes les religions, le jeûne est utilisé pour des raisons spirituelles, comme pour s'approcher de Dieu, se purifier, se mortifier afin de gagner le ciel. Je parle toujours d'une manière générale. Attention, on va revoir les questions. Il peut être partiel ou total, il peut être particulier, personnel ou collectif. Nous allons dire un mot de ce que n'est pas le jeûne. Alors là, nous allons revenir à des questions qui nous intéressent. Ce qu'il n'est pas. Le jeûne n'est pas un moyen de purification de l'âme. En effet, le sacrifice de Jésus et la foi qui en découle nous purifie parfaitement. On le croit ou on ne le croit pas. Sinon, on ne le croit pas, ben c'est comme si Jésus n'avait rien fait. Et à ce moment-là, nous faisons notre propre purification, notre propre sanctification, etc. Il n'est donc besoin de rien de plus, puisque le sang de Jésus a tout accompli, les derniers mots de la croix sont là pour nous l'attester. Tout est accompli. Je crois, personnellement, que le sacrifice de Jésus est total, complet et parfait. Donc, ce n'est pas un moyen de purification de l'âme. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 7 et au verset 27, en ce qui nous concerne, nous les chrétiens, les croyants, nous n'avons pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord, comme les sacrificateurs pour leurs péchés ou nos propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, Jésus l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Ce qui revient à dire ce que nous avons affirmé il y a quelques instants, que le sacrifice de Jésus est complet. Ce que n'est pas le jeûne non plus, ce n'est pas un outil de pression sur Dieu. Il est illusoire de croire qu'en jeûnant, nous allons forcer la main de Dieu. Alors il y a pas mal d'idées reçues sur la question. On va se mettre à 10, 20, 30, 100, 1000, 10 000 à prier, et là à ce moment-là, mais le Seigneur ne peut pas faire autrement, il va être obligé d'exaucer. Ça, c'est une façon de penser. Donc, il ne s'agit pas de forcer la main de Dieu. Le jeûne, ce n'est pas une grève de la faim. Quand politiquement, les gens font la grève de la faim, ils manifestent contre quelque chose qui ne leur plaît pas ou qu'ils voudraient obtenir. Alors, parfois, on fait céder les autorités en disant, ils vont faire finir par s'occuper de nous. Mais écoutez, il n'y a pas d'ombre ni de variation chez le Seigneur, il sait ce qu'il fait, hein, quoi qu'il en soit. Donc ce n'est pas une grève de la faim. Nous ne sommes pas mieux entendus de Dieu parce que nous jeûnons. On va le voir après. Là, c'est un petit canevas que je suis en train de mettre devant vous. Alors, maintenant, vous allez peut-être me poser la question, mais pourquoi jeûner? À quoi ça sert? Le jeûne doit être compris comme étant un moyen d'expression. Nous exprimons. Il y a quelque chose qui appelle finalement, et bien au plus profond de nous-mêmes, à exprimer devant Dieu, à manifester devant Dieu, à dire. De même que se mettre à genoux est censé traduire l'humilité. Mais ce n'est pas forcément de l'humilité. Donc, traduire l'humilité ou le sentiment de petitesse ou de soumission. Ce n'est pas pour ça qu'on se croit petit et qu'on est soumis parce qu'on se met à genoux. Que lever les mains exprime une adoration intense. Chacun le fait en fonction de sa conscience, comprenez. Le jeûne devrait traduire des sentiments très forts qui n'ont rien de rituel. Je dis bien de rituel, de traditionnel, de décrété par les hommes. Et qui correspondent à des périodes de crise de notre vie spirituelle. Lorsque ces moyens d'expression, je cite et je rappelle, se mettre à genoux, lever les mains, ou même je mets, deviennent réguliers, et j'insiste sur le mot régulier, sans motif particulier, ils se vident de leur sens. Et Jésus en a parlé dans le sermon sur la montagne, on y reviendra. Et deviennent des rites creux et inutiles. Parce qu'il fallait au-delà de notre réflexion, qui fait que nous pouvons décréter un jeûne, le mettre dans le programme de l'année, le mettre dans le programme de nos semaines, et de dire, eh bien voilà, on fait les choses comme ça. Vous verrez qu'il y a des instructions, après dans la Bible, on va les fouiller, vous verrez que c'est pas pour ça que Dieu entend. Parce qu'il voit autre chose parfois. Au fond des cœurs, dans les mobiles, dans les démarches. Donc, ça devient des rites creux. Parfois même, Ce n'est que la manifestation, et vous m'excuserez les mots, hein, mais la manifestation, et Jésus le soulignera par rapport aux pharisiens, la manifestation de l'hypocrisie religieuse. Jésus dénonce à plusieurs reprises ce travers, hein, donc, chez les hommes de son temps. Et c'est pourquoi nous en avons, eh bien, là, eh bien, des éléments de réflexion et d'étude. Et si ça a été consigné dans la Bible, c'est pour que nous ne fassions pas la même chose. Forcément pas la même chose. Il faut toujours faire la différence entre le symbole et la réalité. Et je dirais que les symboles, y compris le symbole du jeûne, ne remplacera jamais dans le cœur des enfants de Dieu la réalité. Or, le monde religieux a versé davantage dans le symbole ou le symbolisme que dans la réalité profonde de ce que Dieu attend lorsque, eh bien, nous nous tournons vers lui. Donc, je parlais d'idées reçues. Nous avons tous été, pour la plupart d'entre nous, à une éducation religieuse à un moment ou un autre. Il ne faudrait pas que l'éducation que nous avons reçue anciennement avant notre conversion, que nous replongions peut-être dans une piété religieuse évangélique. Ce qui serait quand même un comble. Donc, il est nécessaire que nous tenions compte de ce que Jésus nous enseigne. Idée reçue sur la question, en préparant ce travail, j'ai quand même fouillé un petit peu ma Bible, et je me suis aperçu, et vous allez être surpris, hein, que le mot, le nom jeûne, le jeûne, dans l'Ancien Testament est cité 15 fois, que 15 fois. Dans le Nouveau Testament, et la surprise est grande, que 5 fois. Ce qui donne, dans toute la Bible, 20 fois. Le verbe jeûner, dans l'Ancien Testament, est cité 15 fois, et dans le Nouveau Testament, 9 fois. Ce qui donne 24. J'ai regardé par ailleurs le mot prier, parce que jeûne, ce n'est pas uniquement, bien sûr qu'il y a de la prière dans le jeûne. Mais on s'apercevra que jeûner, ça peut être autre chose aussi. Ce n'est pas seulement de nourriture. D'une substance d'entretien de nos corps que l'on appelle le pain, par exemple. Et quand j'ai regardé le mot prière et le mot prier, alors là, vous regardez dans la concordance, hein, si vous en avez une, vous verrez, vous serez étonné. Hein. C'est étonnant. Le Nouveau Testament décrit un seul jeûne, celui de Jésus dans le désert. Eh oui. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, parce que me semble-t-il que quand nous avons pris le texte, il est bien question que Jésus, je relis, hein, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il venait juste d'être baptisé naturellement, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim, ce qui est tout à fait logique. Il a eu faim après 40 jours. On parlera des 40 jours également. Donc, c'est le Nouveau Testament qui le souligne, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc où nous avons fait notre lecture. Vous remarquerez avec moi le texte qui nous est dit, il a été poussé par l'Esprit. Marc nous dit, il a été la conduit par l'Esprit. Il a été, je crois que c'est Marc ou Matthieu, je ne donnerai pas peut-être un petit trou de mémoire, mais dans les trois évangiles, il nous est donné poussé par l'Esprit, conduit par l'Esprit et emmené par l'Esprit. Emmené par l'Esprit. Le jeûne n'est pas un devoir religieux. On doit y être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que quand un mouvement, quand un pasteur, responsable spirituel, décrète un jeûne, il faut qu'il sache bien ce qu'il fait. Parce que si c'est lui qui le décrète, ben il décrétera. Maintenant, ce qui est important, c'est que ça soit entendu du ciel et qu'il soit finalement, eh bien, soutenu par le Seigneur. Alors, on doit y être conduit par le Saint-Esprit. Vous remarquerez que le Nouveau Testament ne donne pas de leçon sur le jeûne. Il n'y a pas de leçon comme bien d'autres doctrines. Hein. Les choses sont présentées tout simplement comme cela. Parce que jeûner, nous pouvons le faire pour différentes choses. Jeûner par nécessité des circonstances. Ce peut être poussé par le Saint-Esprit dans la douleur et la détresse morale. Ce peut être une démarche d'humiliation. On verra tout ça. Ce peut être à cause de souffrances physiques. Ce peut être également par la méchanceté des hommes pour solliciter la délivrance. Ce peut être, je pense à l'apôtre Paul, par souci ou danger dans l'Église. Il y a naturellement certainement d'autres manières d'aborder les choses, mais je parle de nécessité des circonstances. Et par l'expérience, la petite expérience que nous pouvons avoir faite, vous savez, quand on est soit dans une détresse morale, soit dans une souffrance physique, lorsque nous sommes en but avec la méchanceté, la destruction des hommes, nous détruire, ou en souci pour la paix ou l'unité de l'Église, je peux vous dire que le jeûne, il est facile à ce moment-là, parce qu'on n'a vraiment pas faim. C'est pas moi qui appuie sur un bouton en disant « aujourd'hui, à telle heure, tu vas jeûner, parce que c'est comme ça, etc. etc. » Je peux vous dire que on est porté par autre chose. Et je dis qu'on est poussé, on est conduit et on est emmené par le Saint-Esprit, là où Dieu veut nous voir, dans la position où Dieu veut nous voir. Je fais un petit peu, et je dis un peu comme Jésus, ce n'est pas un décret que les hommes vont faire en disant « voilà, c'est ceci, c'est cela et c'est comme ça ». C'est pour ça qu'il faut bien faire attention et connaître les choses. Il faut être avisé. Le jeûne est une arme de combat. On y rencontre Dieu, mais on peut y rencontrer aussi le diable. Écoutez. Il fut conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert, où il fut tenté par le diable. Si l'on prend les choses en considération, eh bien, ça laisse réfléchir. Parce que le jeûne, ce n'est pas une petite affaire. Premièrement, il y a cette humiliation de notre être physique, la privation de la nourriture volontaire. Mais je crois qu'il faut aussi veiller à ce que, eh bien, les choses soient bien comprises. C'est une arme de combat. Et nous voyons qu'il ne mangea rien durant ces jours-là et il rencontra. Il a été tenté par le diable. On connaît un petit peu la manière dont les choses se sont passées. La tradition humaine ou religieuse valorise plutôt le jeûne régulier que le jeûne ponctuel. Tout à l'heure, je vous ai parlé, cité quelques exemples de jeûnes ponctuels. Douleur, humiliation, souffrance, méchanceté, détresse, danger, etc., etc. Parce qu'il y a une conduite à ce moment-là. Et nous voyons que souvent les hommes ont fait grand bruit de ce jeûne régulier. C'est souvent un rituel organisé par les institutions. On a une vision, on a un plan, on se dit voilà, eh bien, devant la connaissance des détresses de ceci et cela, eh bien, il faut que les églises ou que l'église ou que, eh bien, là, sur différents continents, on fait une ceinture de prière ou une ceinture de jeûne, comme vous voulez. Mais la réflexion nous pousse à réfléchir à ceci, que s'il faut faire juste comme les autres, vous avez remarqué que c'est le Saint-Esprit qui a poussé Jésus, que si simplement pour faire juste comme les autres par pur devoir, c'est en quelque sorte un jeûne forcé qui n'a aucune valeur. Vous savez, on a des occasions de jeûner, hein. Et vous verrez que on n'a pas besoin de sonner de la trompette, hein. Et de le mettre en affichage, et d'envoyer des invitations et des prospectus aux enfants de Dieu pour dire, voilà, convocation solennelle. Ça se passe d'une autre manière. Vous savez que Jésus a passé beaucoup de temps le matin sur les montagnes, alors que le jour se levait, et seul. Vous vous souvenez de l'histoire du jardin de Gethsémané? Ah, c'en est un là, hein, on peut dire. Mais il n'y avait personne avec lui. Hein. Enfin, normalement, il avait emmené quelques-uns, mais ils n'étaient plus là. Hein. Ou ils n'étaient pas là. Donc, Dieu peut appeler une église ou une nation au jeûne. On le voit dans l'Ancien Testament. c'est le seul cas où le jeûne peut être public. Vous regarderez la question dans vos maisons. Si vous avez une concordance, vous allez fouiller et vous verrez. Parce qu'autrement, le jeûne qu'on étale est suspect. Je l'affirme. Le jeûne qu'on étale est suspect. Et pourquoi suspect ? Eh bien parce que tout simplement Jésus veut nous prémunir, parce que nous sommes des enfants de l'esprit, il veut nous prémunir de ceci. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, pour en être entendu. Autrement, vous n'allez pas voir votre récompense. Et il ajoute ceci un peu plus loin au verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Lorsque vous jeûnez, Jésus suppose que nous pouvons jeûner. Alors, lorsque nous sortons de jeûne, n'allons pas montrer aux autres qui étaient peut-être participants ou les autres qui nous rencontrent après que finalement, eh bien, nous sommes dans un état d'affliction profonde parce que nous avons jeûné. Quel homme, quelle femme spirituelle, regardez comment il est triste, comment il est affaibli. Regardez comment il s'est mis dans cette situation pour pouvoir... Quelle piété, merveilleux, formidable. Jésus nous dit ça. Hein. Ne prenez pas un air triste, parce qu'à ce moment-là, vous savez ce qui est dit ? Hypocrite. Hypocrite, qui se rend le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'il jeûne. Je vous le dis, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, ça doit pouvoir se faire, lave ton visage, afin de ne pas montrer, aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus avait certainement observé comment ça se passait dans son temps. La nation d'Israël, qui était une nation, la nation élue de Dieu, qui avait reçu les oracles de Dieu, qui avait reçu tout ce qui était nécessaire, eh bien, était complètement tombée dans cet aspect rituel, dans le ritualisme, dans le traditionnalisme, dans un formalisme qui les avait complètement enserrés, étouffés. Et tout était devenu, alors, d'une rigidité pas possible. Et ils avaient perdu la vie. La vie de Dieu. Et je crois que c'est le même danger qui peut se produire également pour l'Église. L'Église chrétienne aujourd'hui, je ne parle pas d'Église historique et chrétienne, hein, mais je parle de l'Église de Pentecôte, si vous voulez, l'Église charismatique, l'Église où là, eh bien, les trois piliers sont réunis, la conversion, la repentance et la nouvelle naissance, la vie de l'Esprit. Et Jésus dit, attention, parce qu'on est sorti, on peut y rentrer tout à nouveau. Peut-être avec une bonne conscience, mais dans un aveuglement et dans l'ignorance. Et on ne peut pas se permettre d'être ignorant, puisque Dieu nous dit les choses. Alors je dis bien que le jeûne qu'on étale est suspect. Si c'est pour sonner de la trompette, tant pour l'aumône que pour le reste, hein, eh bien attention. Il est souvent conduit par le besoin, dans l'attitude des pharisiens, par le besoin de montrer qu'on est plus spirituel que les autres. On dirait une église qui prie, qui jeûne, eh bien c'est une église qui est supérieure aux autres. Ben écoutez, je vais vous dire des choses après. Vous allez voir que quelquefois, quand on voit ce qui s'y passe, le fond des cœurs, la désunion, les critiques, la méchanceté dans certains cas, eh ben, vaudrait mieux pas jeûner, se mettre à table et se réunir autour d'une agape fraternelle en s'aimant les uns les autres. On fait étalage devant qui et pourquoi ? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ? La question est posée. Je voudrais vous dire que le vrai jeûne, c'est une affaire d'amour avec Dieu. Ah, ça change tout. C'est pas la loi. C'est une affaire d'amour avec Dieu. D'amour avec Dieu, d'amour pour l'Église, l'amour pour mes frères et mes sœurs, l'amour pour les perdus, pour le monde qui m'environne. C'est une histoire d'amour. C'est pas autre chose. C'est une démarche d'intimité et elle doit le rester. Il y a parfois de mauvais jeûnes. Décréter des jeûnes dans des conditions de conflit, de désunion, de division, décréter des jeûnes qui génèrent des conflits, alors à quoi ça sert? J'ai eu l'expérience il y a plusieurs années, il y a une dizaine d'années, d'assister à des temps de prière jeûne, on pourrait dire cela comme ça. Le matin de bonne heure, où les gens venaient, et quand on regardait derrière le rideau, derrière le voile, quand on voyait l'état de l'Église, je dis bien l'état spirituel de l'Église, l'état moral de l'Église, je me dis, à quoi ça servait sinon de la poudre aux yeux pour dire, en ayant une apparence de jeûner, alors qu'il y avait tellement de choses, tant sur le plan d'un désordre matériel, un désordre économique, un désordre dans les vies et de méchanceté qui s'étaient répandues les uns contre les autres, alors bien sûr, ça tenait, c'était un décret, on jeûnait, mais à côté de ça, on ne réglait pas les problèmes. Alors on règle les problèmes d'abord, et puis après on fait le reste. Je dis bien que c'est une relation d'amour, avec Dieu et aussi avec les autres. Est-ce que jeûner, c'est pour accroître sa puissance spirituelle? Seigneur, je viens prendre des forces, pour que je montre que je suis fort. Et vous ne trouvez pas ça quand même bizarre? Alors à ce moment-là, allez faire de l'aérobic, et puis... musclez-vous, Mais attendez, c'est pas une gymnase, les réunions de jeûne. Pour accroître sa puissance spirituelle. Or, la puissance de Dieu ne s'achète pas. On l'a vu tout à l'heure. On ne force pas la main de Dieu. On n'est pas là pour faire plier Dieu, parce que tout est pure grâce. Que je jeûne une heure, que je jeûne 2 jours, ou 10 jours, ou 40 jours, et plus si vous arrivez à tenir le coup, en disant, mais Seigneur, tu vas bien capituler quand même. Vous savez, quand le Seigneur veut donner quelque chose, il le donne, et quand il ne veut pas le donner, il ne donne pas. Et moi je dis qu'il a raison de donner, et quelquefois il a raison de ne pas donner non plus. C'est l'état d'esprit, la mentalité qui est derrière. Ce sont les mobiles qui sont derrière. Et ils ne sont pas toujours très saints. Mais ça, on ne peut pas toujours le savoir, naturellement. Le vrai jeûne met dans une disposition de cœur, je dis bien le vrai, qui permet de mieux écouter Dieu. Qui force à l'humilité, et non pas le contraire vu chez les pharisiens, de sonner de la trompette. Et qui nous rend aussi disponibles, mais toujours vis-à-vis du Seigneur. Forcer l'humilité. Rester dans des conditions où c'est Dieu qui reste le souverain en tout et partout. Je voudrais vous dire quelques mots et vous parler du jeûne dans la Bible. Le jeûne n'est jamais exigé dans la Bible. Ça peut surprendre, mais c'est comme ça. Par exemple, dans la loi de Moïse, je dis bien la loi de Moïse, je ne parle pas de Moïse, mais la loi que Dieu a donnée à Moïse, il n'y est jamais mentionné. Il apparaît très souvent dans les récits de l'Écriture, c'est vrai que le jeûne apparaît très souvent, mais sans explication de la manière dont nous devons faire. Une chose que nous avons compris et dont nous sommes en train de parler, c'est la façon et les mobiles qui doivent présider au jeûne, pas la manière. Toutes les religions, chrétiennes ou non, ont inventé finalement toutes sortes d'approches du jeûne. Il y a des choses qui quelquefois nous surprennent, compte tenu de l'étendue de la privation, de ce qu'il faut manger, de ce qu'il ne faut pas manger, l'étendue de cette privation et de leur durée. Si à partir de demain matin, on s'abstient de manger pendant 40 jours, les uns et les autres. Et je ne demande pas votre avis, tout le monde le fait. Vous allez faire des économies. Mais il y aura peut-être des enterrements, des sépultures à la fin. Ouais. Et certains sont partis en disant, je jeûne, je vais jeûner, il faut absolument que j'atteigne 10 jours, et puis quand j'aurai atteint 10 jours, je ferai 12 jours, et puis peut-être 13, 14, ça devient de plus en plus difficile, Et après, l'homme qui aura triomphé, qui aura maîtrisé son corps, pourra le dire, vous savez, moi, Dans mon témoignage, j'ai fait un jeûne de 15 jours. Bon, je pense que ça dénote quelque chose qui n'est pas forcément... Qu'est-ce que l'on veut prouver ? Nous avons des exemples célèbres d'hommes de Dieu qui ont jeûné. On va en dire quelques mots. Dans Deutéronome, c'est Moïse. Je ne parle pas de la loi de Moïse, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est Moïse. Moïse dit « Je me prosternais devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. » Là, c'est le serviteur qui parle. L'homme de Dieu qui a à cœur la nation, qui souffre, qui aime la nation d'Israël. Mais comme ils étaient partis complètement en dérive, alors lui va se tenir devant Dieu. C'est un petit peu la similitude avec les 40 jours de jeûne dans le désert de Jésus. Ces deux exemples ont donné à la durée de 40 jours une valeur mystique, voire même superstitieuse. Oui. Certains s'en sont servis pour partir un petit peu dans une connotation superstitieuse. Mais cette durée, ni aucune autre, qu'elle soit longue ou courte, n'est jamais préconisée dans la Bible. Il n'est pas dit « tu jeûneras pendant 40 jours ». Moïse a jeûné pendant 40 jours, Jésus a jeûné 40 jours. Elle ne figure dans l'Écriture sainte qu'à titre historique. On sait que dans l'histoire, Moïse, Jésus. Voilà. Ce sont des exemples et pas des enseignements doctrinaux. Vous comprenez la différence ? Parce qu'on va vite passer avec un fait à en faire une doctrine. Et vous savez où ça mène, ça ? Eh bien, à des fausses doctrines. On va beaucoup plus loin. Ça devient finalement antiscripturaire. Ce sont les hommes qui ont ajouté tout cela. Et ça peut aller très très loin. Ça peut amener toutes sortes de perturbations. Les Juifs observaient des jeûnes rituels contre lesquels Jésus s'est élevé. On a un fameux exemple d'un homme aveugle sur lui-même qui se glorifie de ses activités spirituelles mais qui est complètement à côté de la question. Vous en souvenez ? Le pharisien debout priait ainsi en lui-même : Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même ce publicain, et il ajoute : Qu'est-ce que tu dois être content de moi ? C'est moi qui le dis. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Ah, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est fait dans la discrétion. Remarquez, il n'y avait pas grand monde, hein. Ils étaient deux dans le temple, visiblement dans cette circonstance. Mais quand même, je jeûne deux fois par semaine. Seigneur, qu'est-ce que tu dois être content de moi ? Qu'est-ce que je dois quand même, à tes yeux, être un bon chrétien ? Des gens comme moi ? Mais... Il n'y en a pas beaucoup, hein. Heureusement que je suis là. Ben oui. Non mais, je jeûne deux fois par semaine. Dans Matthieu, au chapitre 6 et au verset 16, je reprends le texte que nous avons vu tout à l'heure, parce qu'il est quand même important. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Voilà ce que Jésus nous dit. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 7 et au verset 5, il est dit ceci, « Dis à tout le peuple du pays, aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième et au septième mois, et cela depuis 70 ans, ils avaient du courage, hein, est-ce pour moi que vous avez jeûné ?» Dieu dit, par la bouche du prophète, « Est-ce que c'est vraiment pour moi ?» Parce que quand on voit la durée, quand on voit la fréquence, on s'aperçoit que par la bouche du prophète Zacharie, Dieu pose des questions au sujet du jeûne des Juifs de ce temps-là. Ils ont pleuré, ils ont jeûné, donc à des dates particulières, cinquième, septième mois, et cela pendant 70 ans. Hey, Il ne devait pas y avoir beaucoup d'obèses. Hein. Les cures d'amaigrissement, elles devaient être... dites donc. Hein. Et visiblement, apparemment, si Dieu intervient par la bouche du prophète, hein, Zacharie, c'est que là, cela n'a servi à rien, parce que les sentiments exprimés par ce rite étaient faux. Il le faisait parce qu'on le faisait, parce qu'on l'avait toujours fait, et qu'on espérait bien le faire encore très 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 longtemps. Ils ne jeûnaient et ne pleuraient pas pour Dieu. Ils exécutaient un rite qu'ils pensaient, et je dis le mot, méritoire. Méritoire. Il faut absolument, dans nos origines, et c'est vrai que nous avons été marqués quand même par certaines choses, il faut absolument que nous nous débarrassions une fois pour toutes de notre conception du mérite. Ah oui, c'est viscéral hein, quand même. Hein. C'est dans la nature humaine. Alors, doublé par, quelque part, une éducation religieuse, je peux vous dire que c'est terrible. Hein. Et ça, c'est chez l'homme. On veut mériter. On veut avoir les bonnes grâces et la faveur de Dieu. Mais les bonnes grâces et la faveur de Dieu, elles découlent en fleuve de la croix du calvaire. elle est là, on ne la saisit pas et on veut faire quelque chose à côté. Le Seigneur dit, mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour vous ? Je vous ai tout donné. C'est une question de disposition de cœur et puis surtout de foi, de croire. Le mérite. Seigneur, délivre-nous du mérite et donne-nous de vivre et de nager et de nous répandre dans ta grâce. C'est la vie de l'esprit, mes frères et sœurs. La grâce de Dieu. Troisième point. Que dit la Bible au sujet du jeûne ? On a vu dans le verset de Zacharie où là, les Juifs eh bien, étaient pris par des émotions qui présidaient à leur jeûne, et traditionnellement. Mais ce n'était pas orienté vers lui, ce n'était pas orienté vers Dieu. L'esprit du jeûne est expliqué dans la Bible maintenant, brièvement. Dans Ésaïe, chapitre 58, verset 6, il est dit ceci. « Voici le jeûne. » Alors là, on va rentrer dans la question pratique. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. » Vous avez remarqué qu'il y a un petit mot très, très intéressant. C'est Dieu qui parle « Voici le jeûne dans lequel je prends plaisir, le plaisir de Dieu. » Le plaisir de Dieu, alors il est parlé de chaîne, de méchanceté, de lien, de servitude, d'oppression et de joug. Le verset suivant, Ésaïe 58, 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Alors, le pain que tu ne veux pas manger dans un jeûne, que tu ne prends pas dans un jeûne traditionnel, eh bien écoute, hein, il faut mieux de le partager avec l'autre et de manger avec lui. Hein. Parce que si c'est pour faire le contraire, ce n'est pas la peine. Ouais. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. C'est exactement la réplique, hein, enfin, ou l'anticipation du sermon sur la montagne. On va le voir bientôt, là. On va repasser tout le sermon sur la montagne. C'est ça, le vrai jeûne. Ces versets nous montrent que le vrai moyen d'être des serviteurs de Dieu, d'être des enfants de Dieu, d'être des fils et des filles de notre Dieu, c'est de servir notre prochain et même notre lointain. Vous savez que le jeûne, vous le pratiquez en permanence, quelque part, parce que le jeûne n'est pas seulement une réalité de non-prise de nourriture, mais vos offrandes, l'argent que vous envoyez à la mission. Et puis, je pourrais multiplier cela, mais vous vous privez de quelque chose pour le donner aux autres. Le vrai jeûne, lorsqu'il y a des opérations qui sont faites de soutien d'un frère et une sœur qui se trouvent dans la difficulté économique, lorsque eh bien, certains frères vont dans les rues pour apporter de la soupe aux pauvres, ben, c'est ça. Le vrai jeûne auquel je prends plaisir. Là aussi, il faut avoir du discernement. On ne fait pas les choses comme ça. Hein. On ne le fait surtout pas dans une pensée méritoire ou de se faire valoir par les autres en disant, ben voilà, il est engagé dans telle ou telle opération, donc c'est quelqu'un de bien, forcément. C'est... Non, non. La réflexion, on peut être bien, hein, quand même, hein, de toute façon. C'est de servir notre prochain et de manifester les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ça ce qui est important. Jésus fustigera les pharisiens, leur dira, mais arrêtez, vous avez changé la parole de Dieu, les commandements de Dieu au profit de votre tradition. Ah, vous comptez la dîme, vous donnez la dîme de la nette, de l'amande, du cumin, mais ce qu'il fallait observer, c'est la justice et la miséricorde. Alors après, on parle de jeûne, on parle d'autre chose, mais avant, c'est ça, l'essentiel. C'est pas seulement quand on le fait, mais c'est toute notre vie. Quand on le fait ponctuellement, c'est toute notre vie, en permanence. Le jeûne est avant tout une démarche personnelle. Le jeûne ne devient collectif que si des individus motivés par le même sentiment et le même motif décident de vivre en commun ce temps fort. On ne force personne. Alors on jeûne, tu dois être là. Ben oui. Parce que si tu n'es pas là, ben, tu vas perdre quelque chose. Ben, c'est possible. Mais si on y va avec l'arme de la culpabilité, si on y va avec l'arme de la pression, vous croyez que c'est comme ça que le Seigneur fait avec nous ? Ben moi, je ne connais pas mon Dieu de cette manière. Mon Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour. Et même lorsque, quelquefois, je ne fais pas toujours ce qu'il faut, eh bien, je compte encore sur ta grâce, sur sa grâce, pour qu'il me redresse et qu'il me ramène, finalement, là où il a besoin. Mais pas la matraque, pas le nerf de bœuf, vous savez, qui dépasse derrière, là. Hein. Puis, pas du tout. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se fait. Parce que vaut mieux ne rien faire du tout que d'avoir des gens qui sont là en train de maugréer en disant « bah oui, je suis là, je dois jeûner parce qu'on m'a demandé de jeûner ». Où est la motivation dans tout ça ? Parce que je dis que cette démarche, elle est faite d'un commun accord. Dans l'Esprit de Dieu, poussé, emmené, conduit par l'Esprit de Dieu, alors on est au bénéfice de cette belle promesse que Jésus nous laisse. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est simple, hein. Je voudrais vous dire que l'Église, c'est pas l'armée. Même si dans l'Ancien Testament, il y avait les armées de l'Éternel, c'est pas l'armée. C'est pas le régiment. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 18, « Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce que Dieu nous rendra, ce n'est pas le mérite d'avoir jeûné, mais celui d'avoir cru en lui assez, suffisamment pour passer du temps avec lui et lui faire connaître tout simplement nos besoins. C'est ça ce qui est important. Vous allez percevoir une lettre du ciel en disant, ben voilà, j'ai comptabilisé que tu avais jeûné tant de temps cette année, je suis content de toi mon enfant. J'ai jamais reçu une lettre comme ça, hein. Vous n'allez peut-être pas recevoir. Mais par contre, c'est d'avoir cru en lui. D'avoir cru en lui qu'il était présent, puisqu'il a dit qu'il était là, là où deux ou trois seraient assemblés. C'est de pouvoir croire en lui qu'il a entendu ma prière, qu'il a vu mes larmes, qu'il a vu mon chagrin, qu'il a vu mon souci, qu'il a vu ma peine. C'est de croire que, finalement, j'ai passé du temps avec lui. Et c'est quelque chose de positif, c'est pas quelque chose de négatif. Soit je me suis épuisé dans un jeûne où je me suis vidé de moi-même et je suis complètement à HS, là, je ne sais plus où j'en suis rendu. C'est pas ce que Dieu m'a demandé. Ou alors j'ai joué le bel hypocrite en disant, regardez, j'ai jeûné, regardez comme je suis malheureux. Oh là là, j'ai mené un combat, c'était terrible. Vous croyez pas que le combat, le Seigneur l'a déjà mené ? La foi, mes frères et sœurs, la confiance dans sa grâce. Encore un autre point, je m'arrêterai après. Le jeûne est observé pour certaines occasions particulières. Notamment dans ce qui nous est rapporté dans l'histoire, c'est l'Ancien Testament, les jugements de Dieu. Dans Joël chapitre 1er verset 14, il est dit « Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. » Toujours dans Joël, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Nous voyons là encore que cette pratique n'a rien de rituel. Elle est ponctuelle. Elle correspond à des sentiments très forts, à un véritable bouleversement intérieur des individus, une prise de conscience de toute la nation. Et là, ils vont se mobiliser. Et ils vont se mobiliser, je dirais quasi naturellement, si nous y découvrons qu'il y a aussi une inspiration spirituelle beaucoup plus forte que le naturel. Les afflictions des autres. Dans le psaume 35, verset 13, « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur ma poitrine. » Le jeûne du psalmisme correspond à une compassion véritable. Il est à noter qu'il ne consiste pas à humilier son corps, mais l'âme. Celui qui jeûne porte le sac, renonçant à sa dignité, ce que lorsque nous sommes dans un temps de prière ou de jeûne, nous ne faisons pas. On devrait tous venir avec un peu de cendre et un sac et se mettre dedans. Enfin, chacun l'ancien. Ben oui. Bon, c'était l'Ancien Testament, hein, ça, vous avez compris, hein, naturellement. Jeûne inutile lors de certaines afflictions, conséquences de fautes. David, et vous allez vous en souvenir, David priait Dieu pour l'enfant. Vous connaissez d'où il venait cet enfant? L'enfant de cet égarement avec Bathsheba. Voilà. David pria pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. 2 Samuel chapitre 12. Cet exemple est le type du jeûne inutile. Vous savez ce qui s'est passé après? En jeûnant, David voulait forcer la main de Dieu, influencer la main de Dieu, et ce n'était plus un jeûne, mais une grève de la faim. On peut dire ça comme ça. Et je voudrais vous dire que Dieu n'est pas sensible à cet argument-là. Oui. Je crois que David est passé par une véritable repentance. Certainement. Mais il voulait que, dans ces circonstances tragiques, et dans ce désordre qu'il avait, dont il avait été l'auteur, il aurait bien voulu que les choses s'arrangent peut-être comme il pensait, lui. Mais cet enfant est mort. Et à un moment donné, d'ailleurs, il a eu une bonne réaction parce qu'il a jeûné. Il a fait, pour essayer d'avoir un petit peu de voir comment on pouvait faire avec Dieu si on ne pouvait pas changer les choses. Mais à partir du moment où il l'a compris, parce qu'il a pris dans la foi, après, il a mangé et il a continué à vivre comme normalement. Il avait compris. Il avait compris. Le roi Darius, alors c'est un païen, hein, il nous est dit que le roi Darius se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeûne, une autre forme de jeûne, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Ce jeûne, le jeûne de ce roi païen, est causé par les tourments de sa conscience. Parce qu'il avait décrété de faire mourir le prophète Daniel. Et il est un exemple de jeûne causé par un grand trouble intérieur qui lui avait coupé tout simplement l'appétit. Ouais. C'est lui qui avait décrété hein, que Daniel allait être éliminé. Puis à un moment donné, il s'est dit, mais c'est pas possible. Pas possible, je suis en train de faire quelque chose. Alors le salut de Daniel ne doit rien à ce jeûne-là. Hein. Ce n'est pas parce que le roi Darius a jeûné que Daniel a été délivré. Daniel a été délivré parce que le Seigneur avait décrété qu'il serait délivré, mais par la main divine. On va s'arrêter là parce qu'il y aura encore une autre phase. Mais je pense qu'on a déjà un petit peu avancé dans le sujet. Hein, et on y reviendra, si vous voulez bien. Mais toujours est-il que je pense que c'est important. C'est important parce que nous devons former les enfants de Dieu à une connaissance juste de la parole, et non pas se fier à nos traditions. et à tout ce qu'il nous semble devoir faire. On le fait en bonne conscience, on le fait avec une bonne intention, c'est certain. Mais il faut savoir si ça cadre avec la pensée de Dieu, hein, avec la parole de Dieu. Parce que ce qui compte, on peut bien prier toute une vie. Si on est à côté de la volonté de Dieu, si on est à côté de ce que Dieu nous demande, ben on pourra prier, il se passera rien du tout. Hein. C'est important. Hein. Et je crois qu'il faut que nous apprenions à être libres, à rentrer dans cette liberté de la vie de l'Esprit, de la pensée du Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. L'onction nous enseigne toutes choses. Et ne pas tomber, parce que l'Église, moi je crois qu'elle est en danger, elle a toujours été en danger, mais elle est en danger de retourner aux religieux, retourner à des traditions, à des rites. Et c'est vrai que les temps sont difficiles à l'extérieur. Et vous, après des décennies où il y a eu beaucoup de laxisme dans notre société, on assiste à un retour en masse du légalisme. Mais dans tous les, hein, tout politique, social, dans toutes sortes de choses. Trop de désordre amène finalement des réactions dans l'autre sens. Et je crois que l'Église n'y échappe pas. Oui. Et c'est vrai que l'Église a connu des temps où on a peut-être fait n'importe quoi. On a enseigné n'importe quoi. Et on a tendance à revenir dans l'autre sens. Mais vous savez que les extrêmes sont mauvaises, hein, d'un côté ou d'un autre. Et ce qu'il faut, c'est garder l'équilibre dans la grâce de Dieu, selon les enseignements de la parole, et surtout être poussé, conduit et emmené par le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. On verra la suite plus tard. Seigneur, nous voulons te remercier. Parce que tu es vivant, tu es fidèle. Tu veux nous donner, Père éternel, d'être des hommes d'équilibre, des hommes de bon sens. Nous ne savons pas tout, Seigneur. Mais une chose que nous te demandons chaque jour, c'est que tu nous donnes la sagesse de l'esprit, que tu nous donnes le discernement, Seigneur, des choses les meilleures, que tu nous donnes de la perspicacité spirituelle. Nous avons abordé ce sujet, Seigneur, qui est un sujet, en effet, qui parfois prête à controverse. Et Seigneur, nous voulons tout simplement nous placer devant toi pour que tu nous enseignes, Seigneur, ce que toi, tu veux que nous sachions, que nous fassions, que nous pratiquions pour la gloire de ton nom. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Nous croyons, Père éternel, que tout cela, Seigneur, est entre tes mains, notre vie est entre tes mains et nous voulons être enseignés par toi. Merci, Seigneur. Croyons, Père éternel, que les hommes ont toujours voulu innover, inventer, réformer, déplacer, modifier, changer les choses. Alors, en effet, Seigneur, nous croyons, Père, que s'il y a changement, ça ne doit pas venir d'en bas, ça doit venir d'en haut, Seigneur. Et que nous puissions avoir des cœurs, Seigneur, capables, vraiment, Seigneur, de se laisser, eh bien, là, inspirer, être repris en sous-main par l'Esprit de Dieu. Merci, Jésus, pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta grâce parce que tu ne nous as pas laissés sans enseignement. Ta parole est là pour nous le rappeler et l'Esprit est là pour nous le confirmer. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.